Bonjour à tous. Imaginez un instant que je vienne ici devant vous, maintenant, après la célébration de la scène, et que je vous propose ceci. Les amis, nous allons débattre maintenant entre nous. Chacun va pouvoir prendre la parole pour décider de qui parmi nous est le plus grand. Trouveriez ça un petit peu décalé, inopportun, voire scandaleux probablement, et vous avez raison. Et pourtant, c'est une discussion qui a jailli dans la communauté des disciples au moment où Jésus venait de célébrer pour la première fois le repas de la scène, le repas de Pâques, juste avant sa mort, et qu'il leur avait annoncé à multiples reprises qu'il allait mourir. Dans Luc, au chapitre 22, verset 24, juste après la scène, il s'éleva parmi les apôtres une contestation, c'est-à-dire que le débat a été animé. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand ? Dans les évangiles, c'est la troisième fois qu'il est relaté ce type de discussion. Peut-être y en a-t-il eu même un peu plus. Et je voudrais vous inviter à regarder la première de ces discussions qu'il y a eu entre les disciples dans l'évangile de Marc au chapitre 9, les versets 33 et 34. Premier épisode où ils ont discuté entre eux, débattu pour savoir qui était le plus grand. On n'a jamais eu la réponse, hein, je vous le dis tout de suite, de savoir qui était le plus grand. Par contre, Jésus a pris la parole à ce sujet-là. C'est dans Marc, chapitre 39, verset 33-34. Ils arrivèrent à Capernaum. Ils venaient de traverser la Galilée, et donc marchant à pied, comme ça, ils avaient devisé entre eux, peut-être par binôme, et puis là, ils se réunissaient, et puis ils faisaient peut-être une pause, et puis ils discutaient. Arrivés à Capernaum, lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Probablement que Jésus était à l'avant-garde de cette marche ou derrière, et il les regardait faire, et il entendait des bribes de discours, mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Désillusion à propos des disciples. On peut se dire que ces 12 qui ont passé 3 années avec Jésus, à ses côtés, aux côtés de l'humilité du roi serviteur tel qu'il s'est présenté, de celui qui allait un peu plus tard leur laver les pieds pour montrer son humilité, qui ont côtoyé la douceur de cet homme qui jamais ne s'est senti au-dessus des autres, désillusion que de les voir engager une telle discussion. On s'attendrait à ce qu'ils soient une communauté apaisée, harmonieuse, unie, solidaire, égalitaire peut-être. Eh bien non, il n'en est rien. Il y a eu une autre reprise, je la mentionnerai un peu plus loin, cette discussion. Et puis enfin, la dernière fois, alors qu'on se dit « mais il devrait avoir tout compris » juste après la scène, avant la mort de Jésus. Les raisons de cet élan de comparaison, de mettre une échelle de valeur parmi eux, une espèce de concurrence entre eux, les raisons, il faut les chercher dans le contexte tout simplement. Juste avant, les versets 30 à 32, pendant cette traversée de la Galilée, il enseignait ses disciples et il leur dit « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Jésus vient de leur annoncer qu'il va partir. Et donc, il paraît immédiat, humainement parlant, qu'on s'interroge pour se dire « mais qui va être le leader maintenant qu'il va partir ?» Qui va nous diriger, nous, le groupe des 12 ? Qui va prolonger notre périple, le temps spécifique passé les uns avec les autres, à nous occuper des choses de Dieu, nous qui avons laissé nos familles, nos métiers, etc. Et donc, on discute pour qui est le plus grand, qui naturellement, bien entendu, devrait être le leader de cette équipe. Il vous vient peut-être un nom immédiatement à l'esprit à ce sujet-là. Pierre, bien entendu, celui qui était le porte-parole, qui s'avançait toujours le premier, qui manifestait le plus grand dynamisme. Une deuxième chose, c'est que dans ce futur à réorganiser, les disciples n'avaient pas tout compris de ce départ de Jésus. Mais il semble qu'ils avaient compris quelques éléments quand même, que Jésus allait rentrer dans la gloire. Et la deuxième fois où cette discussion va jaillir entre eux, eh bien, c'est à propos justement de cette gloire. Dans ce futur, il y a bien sûr le périple sur cette terre, se trouver un leader, mais il y a la gloire future, ils ne percevaient probablement pas quand. Et au chapitre 10, c'est simplement quelques jours après cette discussion, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, c'est au verset 35, s'approchèrent de Jésus, lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Rien de plus, rien de moins non plus. Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » ?»« Eh bien, accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Il y avait donc dans ce futur à organiser aussi cette idée, mais quand il sera dans sa gloire, voilà, on veut des places. Et dans l'évangile de Matthieu, qui cite le parallèle de cet épisode, il nous est dit que ce ne sont pas forcément même Jacques et Jean qui sont venus, mais leur mère qui s'est approchée pour revendiquer ses places. Ah, les mères, pour leurs fils, que ne feraient-elles pas ? Surtout les mères juives, hein, vous le savez, c'est devenu un sujet de beaucoup de sketchs humoristiques. Donc il y a ce futur à organiser, mais il y a autre chose, je crois, dans le contexte. Parce qu'il n'y a pas qu'un futur à envisager, mais il y a aussi un passé à digérer. Et si on remonte le texte, on s'aperçoit que ce chapitre 9 démarre avec un épisode que nous appelons habituellement la transfiguration. On va lire les versets 2 à 10. « 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. » Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » « Écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour d'eux et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce qu'ils entendaient par ressusciter des morts. Expérience marquante. Jésus, vu dans sa gloire, une blancheur comme on n'a jamais vu, une lumière éblouissante, l'image même de la perfection, de la sainteté qui leur est présentée en spectacle véritablement. Deuxième chose, eux qui sont juifs, qui ont des racines qui plongent dans l'Ancien Testament, les deux figures marquantes de l'Ancien Testament, Élie, Moïse, leur apparaissent. Troisième chose, la voix de Dieu qui se fait entendre et qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et puis, dernier élément de cet épisode qu'ils ont vécu sur la montagne, Jésus qui leur fait des confidences en particulier. « Vous savez, vous trois, des choses que les autres ne savent pas. » Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu. Et les 9 autres, dans les versets qui suivent, verset 14, « Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, les 9 autres, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. » Et cette discussion avait un caractère contradictoire, de remise en question. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourue pour le saluer. Il leur demanda, « Mais de quoi discutiez-vous entre vous ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, J'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi, et on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?»« Depuis son enfance, répondit-il. » Et souvent l'esprit l'a même jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. « Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux. » Mais tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet, sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans sa maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, les 9 en particulier, qui avaient connu l'échec, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Spectacle misérable pour les 9 autres, lorsque les 3 ont connu la gloire. Ils sont restés seuls dans la plaine, en confrontation avec un public nombreux autour d'eux et un public contestataire, les scribes, les autorités religieuses qui étaient là à les observer. On leur amène un enfant possédé d'un démon. Ils font maintes tentatives, je ne sais pas combien, ce qu'ils ont essayé, prier devant tout le monde, etc. Et échec, échec cuisant. Ce démon ne sort pas. Pourtant, peu de temps auparavant, ils avaient traversé la Galilée. Jésus leur avait dit, vous chasserez des démons et tout ça. Échec. Devant tout le monde. Et Jésus n'est pas là pour les défendre, pour relever le flambeau. Et on discute. Et Jésus en rajoute. Il les met au rang de ces incrédules. Il leur dit... Tout est possible à celui qui croit, sous-entendu, vous n'avez pas cru assez. Et à la fin, il les prend en aparté, il leur dit, un tel démon ne sort que par la prière. Globalement, vous n'avez pas prié assez. Dur comme situation. Et le contraste entre ces deux situations est terrible. C'est un vécu difficile pour les uns, au regard, pour les 9, au regard des 3 autres. Les uns ont connu la gloire. Eux ont connu la misère. Les uns étaient sur la montagne, au-dessus de tout le monde. Les autres dans la plaine. Les uns ont connu l'exaltation d'une expérience spirituelle extraordinaire. Les autres, l'échec, le découragement, la honte. Les uns étaient dans la lumière. Les autres étaient confrontés au monde des ténèbres. Les uns étaient dans l'intimité du maître. Ils ont même reçu des confidences. Les autres, ils ont connu la honte publique. Et à partir de là, bien sûr, il y a une discussion qui rejaillit. Qui sont les plus grands? Alors tout à l'heure, je citais Pierre. Mais à votre avis, Pierre, Jacques et Jean, les 3 qui ont vécu cela, nous avons vécu des choses spirituelles particulières. Nous sommes spéciaux aux yeux de Jésus. Que fait Jésus là? On a du mal à le comprendre. Par 3 fois, Jésus a mis ce groupe des 12 disciples en déséquilibre, en porte-à-faux. Une première fois, c'était lorsqu'il a ressuscité la fille de Jaïrus. Et là encore, il a pris Pierre, Jacques et Jean à part. Ici, c'est la 2e fois. Et puis il y aura une 3e fois, vous vous souvenez peut-être, c'est au jardin de Gethsémané, lorsqu'il va les inviter, ces 3, à venir prier avec lui spécifiquement. Jésus a semblé donner l'image d'une relation privilégiée avec 3 des 12 et pas forcément avec les 9 des 12. Et on peut se dire, mais pourquoi ça ? Est-ce qu'il n'y aurait pas là, de la part du maître, qui est dans une phase de son ministère où il prépare ses disciples à son départ, il leur annonce son départ, une phase dans laquelle il entreprend une œuvre pédagogique? Une première chose, c'est peut-être, j'imagine, la formation des leaders. Il veut instaurer l'idée au milieu de cette communauté de disciples qui va être l'embryon de l'Église à venir, que cette communauté n'est pas égalitaire, mais qu'il y en a qui vont avoir un rôle spécifique et qu'il les y prépare à ce rôle spécifique. Et on sait que l'apôtre Paul, un peu plus tard, reconnaîtra en Pierre et Jean en particulier deux de ce qu'il appelle les colonnes de l'Église. Et on sait, quand on lit le livre des Actes, que Pierre va avoir un rôle particulier, Jean aussi, au sein de l'Église de Jérusalem, avec Jacques, mais c'est un autre Jacques, le frère de Jésus, celui de l'Église de Jérusalem, pas celui-ci, pas le disciple. Jésus est en train peut-être de former des leaders et d'ancrer dans l'esprit de cette communauté qu'il y en a qui sont appelés à un rôle et que d'autres sont appelés à un autre rôle. La deuxième chose, et je pense que c'est probablement celle-ci qui est la plus importante, c'est que Jésus, au-delà d'enseigner ses disciples, de leur fournir un ensemble de connaissances qu'ils transmettront ensuite au monde entier par la diffusion de l'Évangile, Dieu est en train de former des personnalités et des caractères. Et Dieu est en train de travailler dans les cœurs. Pourquoi je pense ça? Parce que dans Luc, au chapitre 9, verset 47, c'est le passage parallèle à celui-ci, décrit par un autre évangéliste, Luc, qui avait fait des recherches à ce sujet-là. Il dit que, Luc 9, pardon, verset 46-47, que Jésus, c'est à propos du même épisode, je reprécise bien, vit qu'une pensée leur était venue à l'esprit, à savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus avait lu dans les pensées qu'ils avaient. Et Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et leur tint un discours, etc. C'est-à-dire que Jésus avait vu les cœurs tels qu'ils étaient, des cœurs prédisposés à une telle discussion de concurrence, de comparaison, de mettre des valeurs sur les uns et les autres, de rechercher quel était le plus grand, quel était le plus petit, etc. Jésus avait vu cela dans les cœurs. Et c'est au cœur qu'il voulait travailler. L'esprit de concurrence, la tentation de se comparer, trouve là ses racines, dans le cœur de l'homme. Et nous ne sommes pas indemnes de cet état d'esprit, de nous comparer les uns les autres, etc. Et c'est au cœur qu'il faut que nous cherchions les racines. La frustration des uns, l'amertume, peut-être, le découragement, la perte d'estime de soi, de se dire « nous ne sommes pas qualifiés pour être des disciples, on vient de connaître un échec pour les uns », l'orgueil pour les autres, nous sommes au-dessus, nous avons vécu quelque chose de spirituel de plus important, l'esprit de supériorité, le mépris des plus faibles, peut-être, pour les trois autres, tout cela était au cœur et générait cette discussion qui a un caractère quelque peu nauséabond, surtout quand elle va se reproduire plus tard, et que chaque fois Jésus aura annoncé sa mort. C'est des différences de statut ou de parcours de vie que jaillissent parfois ces sentiments, qui sont des sentiments véritablement charnels. L'Église n'a jamais été présentée par Jésus comme une communauté égalitaire, comme une communauté de personnes qui vivent des expériences identiques, qui assurent des ministères équivalents. Comme pour ses disciples, Jésus a fait avec la diversité, la complémentarité de tous ceux que nous sommes. Il y a de nombreux textes dans les Épîtres qui évoquent cette diversité, cette complémentarité du corps de Christ. L'apôtre Paul qui parle de l'orteil, de l'œil, etc. Et Jésus, déjà, du temps de son ministère, a fait ce type d'expérience. Quelques jours auparavant, avant cette discussion. Jean-Baptiste a été exécuté. Et Jésus, lui, est toujours vivant. Par la suite, au premier temps de l'Église, on sait que Étienne va être lapidé. L'apôtre Pierre va être miraculeusement délivré de la prison. Sujet à s'interroger. Pourquoi Dieu n'a pas délivré Étienne ? Jacques, celui qui vit cet épisode au premier temps de l'Église, va être exécuté. Quand son frère Jean va vivre pratiquement centenaire, il va écrire l'Apocalypse, ses épîtres à la fin de sa vie. Très déségalitaire, si je peux créer le mot, s'il n'existe pas. Dans la diffusion de l'Évangile, l'apôtre Pierre, et Jésus l'avait qualifié pour cela, va être en première ligne pour ouvrir les portes du royaume des cieux aux juifs, aux samaritains, aux païens, aux prosélytes, etc., aux diverses catégories de population. Et ça va se faire d'une façon assez miraculeuse. Rappelez-vous, Corneille, etc. Et ensuite, Pierre va peu à peu disparaître de l'histoire, et c'est l'apôtre Paul qui va apparaître dans le livre des Actes et qui va être l'apôtre des païens, des ministères différents. Dans l'Église, il y a celui qui a, celui qui a moins, l'apôtre Paul va en parler. Il y a des forts et des faibles, l'apôtre Paul va en parler aussi dans ses épîtres. Il y a celui qui se réjouit et puis il y a celui qui pleure à côté. Que de sujets à propos desquels se comparer. Pourquoi Dieu, tu me fais vivre ça et lui, il vit ça? Mais à tous, Dieu a fait des recommandations. À tous, il a recommandé l'humilité. Il va dire à ses disciples, dans le discours qui suit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous. » Et dans Matthieu, il va dire, « Ne vous faites pas appeler directeur, etc., etc., au-dessus des autres, maître, coach, mentor, tout ce que vous voulez. Ne vous faites pas appeler tout ça. À la limite, faites-le, ce ministère. Mais ne vous faites pas appeler. Restez simple. Ayez la simplicité des enfants. » Et Jésus va leur placer un enfant au milieu d'eux pour leur parler et leur dire, « Devenez comme cet enfant. Recevez cet enfant. » Rappelez-vous que l'enfant, ce n'est pas comme aujourd'hui chez nous où l'enfant est roi. Parmi les Juifs, l'enfant, c'était, et les Romains en particulier, les Grecs également, l'enfant, c'était une quantité insignifiante. Il était inutile. C'était une bouche à nourrir. Il dit, soyez comme ça, simple. Et il va leur dire, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Soyez proactifs dans cette démarche d'humilité, c'est-à-dire ne vous contentez pas de dire, ah, je suis humble et je me complais dans mon humilité. Non, non. Mettez-le en œuvre, cette humilité, comme je l'ai fait moi-même, en vous lavant les pieds. Soyez serviteurs les uns des autres. Et soyez dans l'accueil des plus faibles, les premiers, en voulant être peut-être les derniers, vous seriez les premiers dans le royaume de Dieu. C'est le soutien mutuel, c'est la générosité les uns envers les autres, c'est l'humilité, l'amour que Dieu a prêché à cette communauté qu'il crée, la communauté de l'Église. Et ce qu'il a voulu apprendre à ses disciples, en leur faisant vivre des déséquilibres comme ceux que nous voyons ici, Jésus-Christ veut que nous le vivions aussi et que nous l'apprenions aussi. Dans l'Église, aujourd'hui, il y a celui qui est parti à 47 ans et il y a cette sœur qui, cette année, va bientôt fêter son 101e anniversaire. C'est fait. Dans l'Église, il y a celui qui est en fauteuil depuis des années et l'autre qui respire la santé. Dans l'Église, nous prions depuis des mois pour une fillette de 4 ans qui, depuis 2 ans, est atteinte d'un cancer. Et puis, il y a tous ces autres enfants que vous allez voir courir tout à l'heure dans la cour Pourquoi tout cela ? Dans l'Église, il y a ceux qui sont mariés, il y a ceux qui ne le sont pas. Il y a ceux qui ont des enfants, il y a ceux qui en attendent avec impatience. Dans l'Église, il y a ceux qui ont des biens, d'autres qui n'en ont pas, ou qui en ont moins. C'est une réalité, c'est un constat avec le Seigneur, avec lequel le Seigneur veut que nous vivions avec grâce, avec compassion, avec patience, avec soutien mutuel. L'Église n'est pas une communauté égalitaire. Et puis, je voudrais terminer avec quelque chose d'encore un peu plus actuel. Dans l'Église, il y en a 10 qui sont partis au Népal en mission. On a des nouvelles, vous en avez eu ce matin encore, elles sont bonnes plutôt. Puis il y a tous les autres qui ne sont pas partis. On a vu des photos, ils sont en t-shirt. Nous, on a vécu le froid, ça a été dur. Mais plus que ça, ils vivent des moments extraordinaires sur le plan spirituel. Et peut-être plusieurs parmi nous ont vécu la misère spirituelle pendant ces semaines. Ils ont construit entre eux une communion unique qui va durer encore des jours après leur retour. Et ça va se voir. Et nous ne l'avons pas vécu. Ils auront l'impression d'avoir grandi spirituellement plus qu'aucun d'entre nous qui sommes restés. Et ils en témoigneront. Et nous ne l'avons pas vécu. Les mamans, Marion, Manu, Anne-Lise et Laetitia. Et maman, j'ai dit. Vous avez connu pendant cette semaine la maladie des uns, les pannes. Vous avez connu des caprices que vos enfants n'étaient pas habitués à faire. Ils n'ont pas voulu manger. Ils n'ont pas voulu dormir. Et quand vos maris vont revenir, ils vont vous dire « Mais vous savez, les petits Népalais là-bas, ils obéissent au doigt et à l'œil. Les petits Népalais finissent toujours leur plat de riz. Et si vous saviez comme ils sont gentils. » Et vous allez vous dire « Mais purée, s'ils savaient ce que j'ai vécu pendant ces 15 jours. » Nous aurons tendance peut-être à les voir, ces 10, plus grands que nous tous, à cause de ce qu'ils ont vécu. Plus grands que ceux qui sont restés et qui, eux, ont travaillé, se sont occupés de leur famille et qui, dans le passé, ont été généreux aussi pour permettre à ces 10 de partir. Très inégalitaire. Nous avons besoin que Dieu prépare nos cœurs aussi d'une certaine façon à vivre ces situations. Alors, celle-ci est peut-être une des plus faciles à vivre que d'autres que j'ai citées tout à l'heure, qui sont beaucoup plus dramatiques. Mais l'échec ou la misère, comme la bénédiction ou le succès, présentent une même difficulté à être gérée. Le tact, la mesure de la part des uns, se garder de l'orgueil, et vous savez que c'est difficile, se garder de se croire supérieur, et c'est difficile, et pour les autres, accepter que nous n'avons pas vécu, ou n'avons pas le même statut, ou nous n'avons pas le même ministère que d'autres qui les ont eus. Et nous avons besoin d'avoir des cœurs préparés, d'avoir travaillé à cette simplicité, à cette humilité, les uns et les autres, je ne sais pas s'ils écouteront ce message, hein, ceux qui reviennent, mais les uns et les autres, nous avons tous besoin d'être préparés par Dieu à suivre l'exemple du Maître, Fils de Dieu sur cette terre, qui a été le serviteur de ses disciples. Avoir cette humilité, cette simplicité, cette capacité à accepter ces différences sans frustration, sans tout de suite vouloir dresser des échelles de valeur, à voir lequel est le plus grand, lequel est le plus petit, que Dieu puisse nous y préparer. Nous préparer, comme a lu, je crois que c'est Michel qui a lu ce texte, de l'apôtre Paul, qui était en prison lorsqu'il a écrit ce texte. Et il disait, « J'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. » il n'avait pas grand-chose à ce moment-là. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. Au cours de sa vie, il a eu des moments où il a été soutenu par des personnes qui étaient très aisées. Probablement, il a vécu à ce moment-là l'abondance. Et il disait, dans ces circonstances, « Réjouissez-vous toujours, en tout temps, de ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. » C'est quelque chose que l'apôtre Paul disait avoir appris. Je pense que les disciples ont appris de ces situations où Jésus délibérément les a mis en porte-à-faux les uns par rapport aux autres, pour leur apprendre à accepter que nous ne sommes pas tous égaux, que nous ne vivons pas tous les mêmes expériences, que parfois certaines sont vécues douloureusement, quand d'autres vivent des bénédictions outrageuses, mais que nous devons apprendre à vivre avec ça. Que le Seigneur puisse nous aider à nous réjouir en tout temps, dans ces circonstances évoquées, dans le retour de ses frères et sœurs qui auront vécu des choses exaltantes, que nous puissions les uns et les autres vivre de cette simplicité de l'Évangile et de cette humilité que le Seigneur nous a apprise. Amen.